Bonjour à tous, c'est Tout un monde, le magazine des cultures.
France Culture et le Carreau du Temple présentent Impermanence, un spectacle du théâtre de l'Entrouvert d'Élise Vigneron autour des arts du cirque.
Voyage aujourd'hui dans Tout un monde. Nous partons pour les îles Salomon, au cœur du Grand Bleu, et ce, à l'occasion d'une exposition qui ouvre aujourd'hui même au musée du Quai Branly. Des îles lointaines, heureuses apparemment, perdues au beau milieu du Pacifique, à 1000 milles du monde industriel. C'est ainsi qu'on imagine cette poussière de 900 îles, les Salomon. Mais sous le rêve exotique, qui n'est d'ailleurs pas totalement faux, puisque cet archipel de quelques 500 000 habitants vit en grande partie en autosuffisance, dans un cadre de rêve, il y a bien des hantises, la peur des morts, le règne de la vengeance. De ce mélange donc paradisiaque et angoissé, les Salomoniens ont tiré une étonnante créativité artistique qu'on a l'occasion de découvrir donc à partir d'aujourd'hui au musée du Quai Branly, et ce jusqu'au 1er février. C'est une exposition vraiment passionnante, c'est un voyage dans le temps, dans l'espace, qui nous laisse entrevoir l'extrême complexité et diversité de ces mondes océaniens, par-delà les grandes manœuvres diplomatiques que déploie ces jours-ci la France pour resserrer les liens avec cette partie de la planète qu'elle ignore, il faut bien le dire, le plus souvent. Avec Sandra Révolon, qui a vécu de longs mois au Salomon, nous évoquerons tout à l'heure le mana, c'est cette perception des forces qui traverse la chaîne du vivant dans le monde océanien. Et puis nous sommes en direct avec Magali Mélandry, qui va nous faire découvrir quelques aspects de ces peuples insulaires, si loin, si proches. Bonjour Magali Mélandry.
Bonjour.
C'est l'impression qu'on a en voyant cette exposition, familiarité et en même temps, mon Dieu, comme c'est loin et comme ce monde est à la fois beau, paradisiaque et sombre.
Oui, effectivement, le lointain du Pacifique nous rend parfois un accès un petit peu complexe à ces sociétés, ici, depuis Paris ou depuis l'Europe. Pour ma part, ayant moi-même pu me confronter...
Donc vous êtes la commissaire de cette exposition.
Tout à
vous
fait.
Vous êtes d'ailleurs responsable du département d'Océanie.
Des collections Océanie,
donc vous couvrez l'ensemble du Pacifique. Et oui. On sait à quel point c'est divers.
Oui, la diversité est très importante. Elle est, ceci dit, déjà condensée dans le cas des îles Salomon.
Oui, parce qu'alors on s'aperçoit que c'est une poussière d'îles, mais c'est une mosaïque incroyable. Il y a 900 îles et il y a combien de langues différentes, de
cultures ? Il y a environ 80 langues parlées aux îles Salomon.
C'est fou, ouais.
Avec un creuset assez incroyable des cultures du Pacifique, puisqu'on a à la fois des premières souches de peuplement qui ont amené les langues papoues, une deuxième vague qui arrive de ce monde austronésien, arrivé d'Asie du Sud-Est, autour du complexe culturel Lapita, et qui va donner les langues austronésiennes, qui sont toujours présentes au Salomon. Et puis, une vague aussi de peuplement polynésien.
En dernier, alors ?
Alors, oui, plus tardivement, effectivement, aux alentours de 1000 de notre ère, qui va partir de Polynésie occidentale, plus précisément autour de Wallis et Futuna, pour venir peupler les îles périphériques, en fait, Reunel, Bellona, Tikopia, Sikaiana.
Et le premier peuplement daterait de quand ? Puisque alors, ça change tout le temps. Hein, l'archéologie, à chaque fois, fait reculer en général.
Oui, l'archéologie du Pacifique est vraiment un chantier encore en cours. Néanmoins, sur les premiers peuplements papous, on se situe aux alentours de moins 27 000 before present.
Avant notre ère ?
Oui. oui, tout à fait. Before present désignant en fait.
Faut plus 1900... dire avant Jésus-Christ parce que ça choque.
C'est vrai. Un peuplement quand même relativement ancien. Et encore donc jusqu'au peuplement polynésien et même au cours du XXe siècle, quelques populations micronésiennes qui se déplacent également au sein de l'archipel. Donc on a une mosaïque linguistique qu'on peut retrouver à l'échelle plus importante en Nouvelle-Guinée ou également. Mais ce qui était intéressant et qui montre aussi la diversité présente sur place et qu'on ressent quand on est là-bas.
Alors, l'Occident a très longtemps ignoré cette partie du monde, même au temps des grands voyages et des découvertes. On cherchait d'abord quelque chose qui n'existait pas. On cherchait une immense terre australe qui était censée occuper tout le sud du globe. Et ça a été jusqu'à Cook, hein, donc pratiquement en fin du 18e. Elle était censée fournir l'équilibre de la planète, cette immense terre australe. Donc on est parti dans le Pacifique et on a découvert les Salomon, mais quand ? Tardivement, je crois.
Alors, pour l'histoire de la découverte du Pacifique, les îles Salomon sont parmi les premières îles, en fait, découvertes. Pour nous, on est au contraire...
Ça se passe quand ?
Ça se passe aux alentours de 1568. C'est l'Espagnol Alvaro de Mendana qui part des côtes du Pérou, effectivement avec une forme de double mission, à la fois la recherche de cette terra australis incognita et aussi l'hypothèse rêvée de trouver les lieux où étaient renfermées les richesses du roi biblique, le roi Salomon. Et c'est dans cette quête, même presque avant même le départ, on pense à l'existence des îles du roi Salomon, de Salomon.
Donc c'est la quête de l'or qui mène
des richesses.
La recherche.
Oui, ouais. Tout à fait. La quête des richesses et la quête scientifique aussi de prouver l'existence de cette terra australis qui effectivement sera ensuite déconstruite par les voyages de James Cook qui mettront un terme à cette hypothèse.
Alors aux îles Salomon, est-ce qu'on a trouvé, comme dans ce royaume d'Ophir qu'on cherchait, qui était celui de la reine de Saba, il y a de l'or ou pas ?
Alors il y a en fait de l'or, effectivement, mais quand les Espagnols arrivent aux Salomon fin 1567, ils vont trouver et échanger avec les insulaires de Malaita, de l'île de Malaita, des bâtons qui renferment un nodule métallique très brillant. Mais cette brillance va être prise pendant un court temps pour de l'or par les marins, pour ensuite réaliser qu'il s'agissait de pyrite de fer.
La fameuse pyrite qu'on appelle l'or des fous.
Exactement.
Ou l'or des idiots.
Donc dans cette quête des richesses a ensuite là aussi trouvé son terme. En revanche, les voyages ultérieurs et l'exploitation aussi, les sondages miniers ont permis de découvrir plus récemment des petits gisements en fait. Il y a pas des grandes ressources, mais des petits gisements d'or qui fait qu'aujourd'hui il y a une mine d'or sur l'île de Guadalcanal.
Alors ce sont des peuples tout de même dangereux, puisqu'il y a eu évidemment l'histoire La Pérouse, qu'on connaît bien maintenant. Il y a eu des films magnifiques à la télévision sur cette quête des éventuels survivants, mais ils ne sont pas les seuls. Je veux dire, c'était des endroits où quand on débarquait, il fallait quand même être prudent. On risquait un peu sa peau. C'était des peuples agressifs.
Je pense qu'il y a eu énormément de contextes de rencontres hein, entre les différents insulaires du Pacifique et les voyageurs européens. Autant de contextes qu'il faudrait pratiquement analyser au cas par cas pour éviter justement finalement cette vision à un moment donné, à la fin du 18e et au début du 19e, des terribles mélanésiens ou un exotisme effrayant sur cette disparition.
Il semblerait quand même que dans les années 30, c'est ce qui est raconté dans le catalogue, parce qu'il y a un très beau catalogue qui va avec cette expo. L'équipage de la Korrigan a débarqué à un moment et a posé des questions. Est-ce qu'on peut débarquer ? Et puis le chef a dit je vais consulter les dieux, etc. Et il a jugé plus prudent de remarquer au cas où les dieux ne seraient pas favorables. Donc c'est quand même encore un peu tangent dans les années 30 encore.
Oui, oui, je pense. Mais je vous dirais que peut-être que maintenant, si vous vous présentiez dans un village, je ne suis pas certain qu'on vous, de manière assez naturelle, on ne va pas tout de suite vous accueillir. Et il s'agit d'instaurer une relation. L'importance de la relation et de l'échange est absolument primordiale.
Oui, c'est peut-être que l'occidental a toujours tendance à débarquer en croyant qu'il est forcément le bienvenu, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui ne peut pas être forcément le cas. Alors, il y a eu des très fortes relations d'échange, comme aussi effectivement des rencontres extrêmement violentes du fait d'une incompréhension aussi probablement entre les différentes cultures européennes et océaniennes.
Ah! tout un monde du côté des îles Salomon aujourd'hui à l'occasion de l'exposition qui ouvre en ce moment même au musée du Quai Branly. Nous sommes en compagnie de Magali Mélandry, commissaire de l'exposition. Et puis on va maintenant se balader un petit peu dans cette exposition où il y a des objets extrêmement beaux, très travaillés, et notamment une série de figures de proue, de pirogues, avec des yeux incrustés de nacre, qui sont surtout des instruments de communication avec le surnaturel, ainsi que va nous expliquer votre co-commissaire, Sandra Révelon, qui est ethnologue.
L'idée de cette ornementation, de ce surtravail esthétique, c'est de faire du sens, puisque les éléments qui sont imprimés dans le bois, le plus souvent, ou le coquillage, sont des motifs figuratifs qui vont renvoyer soit à des animaux marins qui sont tous rattachés à la pêche à la bonite dans l'Est des Salomons, soit à des êtres donc surnaturels qu'on va représenter comme ces figures de proue qui représentent sous une forme anthropomorphe la manière dont les gens s'imaginent l'apparence de ces êtres surnaturels. C'est une manière de les rendre présents, à la fois en les représentant sous une forme figurative et aussi en ayant recours à un dispositif visuel qui est récurrent dans tous ces objets, qui est le recours à la brillance, au contraste. La brillance, notamment de la nacre, étant elle-même associée à l'idée selon laquelle ces êtres surnaturels possèdent une forme de pouvoir qu'on appelle mana, hein, qui est un concept en anthropologie, mais qui est aussi une réalité pour certaines sociétés. Le mana, conçu comme une puissance surhumaine, qui est l'apanage des êtres invisibles, surnaturels, mais dont les hommes ont besoin pour participer à la reproduction du monde. C'est-à-dire que pour toute forme de phénomène comme la croissance, la gestation, la production de la vie et sa croissance, c'est une nécessité pour les Salomonais d'agir donc pour cette reproduction en créant des conditions favorables à une coopération entre les vivants et les êtres surnaturels pour que les vivants aient une forme de contrôle sur ce pouvoir des êtres surnaturels qui est le mana.
C'est une sorte d'énergie cosmique qui est partagée par tout le monde et qui va se fixer dans certains individus terrestres et des individus de l'au-delà.
C'est un principe qui est issu de la transformation du principe vital qui anime tout être animé et qui, lorsqu'il meurt, génère ce pouvoir. Donc, le principe vital d'un être vivant va à la mort, lorsque le corps devient cadavre, se transformer en un être surnaturel qui produit ce mana. Voilà. Ce mana, il est produit donc par les êtres surnaturels, il n'est pas produit par les vivants. Mais il peut faire l'objet d'une appropriation par les vivants, qui peuvent le mettre dans leur propre corps et ainsi donner à leurs actions une efficacité qu'on pourrait qualifier de surnaturelle, ou surhumaine plus exactement. Donc tous les êtres ne sont pas chargés de mana lorsqu'ils meurent, les plantes par exemple n'en ont pas, les humains en ont, et les êtres qui n'ont jamais eu d'existence humaine peuvent en produire également. C'est un pouvoir ambigu et par définition incontrôlable. Et à partir du moment où vous choisissez de vous en approprier un petit peu, ça vous engage à vous situer par rapport à ces êtres surnaturels qui vous donnent un peu de leur mana. Ça vous oblige à rentrer dans une relation avec eux qui va devoir bien se passer. Parce que si elle se passe mal du point de vue de ces êtres surnaturels, ils pourront se venger sur vous, détruire vos récoltes, vous rendre malade, vous tuer. Donc s'approprier ce mana, qui est un pouvoir vraiment ambivalent, qui est nécessaire à la reproduction, mais qui est aussi à l'origine de la destruction. Donc les gens sont bien conscients de ça et donc tout le monde ne choisit pas de capter le mana d'un être surnaturel pour donner à son action une puissance supérieure.
On capte ce mana par quel moyen ?
Par des procédures rituelles très normalisées qui vont consister à, lorsqu'un homme possède ce mana qu'il a tiré lui-même d'un ancêtre, il peut par exemple décider d'en transférer un peu à l'un de ses fils ou à l'un de ses neveux pour se faire par exemple se couper son fils ou son neveu et faire un échange de sang. Ça peut aussi passer par la salive. Donc à ce moment-là, la personne qui a du mana en lui peut mâcher un mélange de noix de bétel et de chaux et ensuite formuler une phrase rituelle. Et à la suite de quoi, il va donner un peu de cette mixture à mâcher à la personne à laquelle il veut transmettre du mana.
Donc ce mana se transmet par les fluides corporels surtout, ou il y a mille manières de le transférer ?
Il se transmet par les fluides, mais aussi par un usage particulier des eaux, puisque jusque dans les années 20, donc les relations antagonistes entre les villages pouvaient amener des hommes à mourir de mort violente, ainsi que des femmes qui pouvaient être assassinées. Dans ce cas-là, on considérait que le mana de cette personne assassinée était particulièrement puissant et qu'il se concentrait dans la mâchoire inférieure du défunt. À ce moment-là, ces personnes étaient donc enterrées comme n'importe quelle autre. Et si l'un des descendants décidait d'en faire le culte et de se saisir de ce mana puissant, on allait, une fois que le corps s'était partiellement décomposé, détacher le crâne. C'est pour ça que vous avez dans l'exposition un contenant à crâne qui contient donc un crâne dont il manque la mâchoire inférieure, donc il est un petit peu mystérieux. Mais généralement, donc, on récupérait le crâne et particulièrement la mâchoire inférieure qui concentrait le mana et qui ensuite était déposée dans un ossuaire. À partir de là, on était amené à faire on est toujours amené d'ailleurs, parce que des ossuaires continuent d'exister sur certaines îles, à faire des offrandes régulières pour satisfaire cet ancêtre.
On a le sentiment qu'en Océanie, particulièrement, c'est assez universel, mais en Océanie particulièrement, et je pense aux travaux de Pierre Lemonnier, les morts sont agissants et sont ambigus, peuvent être positifs, mais peuvent être également agissants de manière extrêmement négative. Donc, dans d'autres secteurs du Pacifique, on voit une manière extrêmement complexe de traiter le mort, à la fois pour lui rendre hommage, mais en même temps pour l'éloigner, donc le mettre le plus loin possible ou au moins le pacifier. Il y a une sorte de hantise de l'ancêtre ou du mort d'une autre tribu agissant.
Vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose que Pierre Lemonnier a très bien montré. Dans le cas des Salomons, il me semble qu'il faut procéder par étapes pour comprendre ce phénomène. C'est-à-dire que pour un mort, disons, ordinaire, qui ne serait pas doté d'un mana très puissant, il est bienfaisant dans la mesure où il va vous transmettre des choses, des monnaies, l'accès à certaines terres. Donc en cela, il est agissant pour vous qui restez. Mais il peut quand même avoir sur vous une action malfaisante s'il estime que vous ne lui rendez pas les hommages qu'il mérite. C'est pour cela que régulièrement, dans certaines régions, des rituels funéraires sont organisés, des secondes funérailles qui sont le moment d'une dépense pour l'ensemble de la communauté qui va sortir de ces cérémonies économiquement épuisées, mais qui est le moment pour les vivants de dire aux morts, regardez ce que nous faisons pour vous, regardez comme nous dépensons pour vous, et à présent nous pouvons être délivrés de vous, on peut se débarrasser de vous. Donc ça, c'est dans le cas de morts qu'on ne veut pas conserver près de nous. Après, lorsque vous voulez, vous, individuellement, bénéficier du mana d'un mort qui serait de parmi vos proches, à ce moment-là, vous allez vous engager dans un autre type de relation, par échange de salive ou en récupérant le crâne. Et à ce moment-là, vous vous engagez dans une relation avec un mort qui a un mana puissant. Et là, vous savez que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser puisque vous mettez son mana dans votre propre corps. Et donc même après votre mort, votre corps restera actif. C'est une forme de contrat dans lequel vous vous engagez régulièrement, plusieurs fois par an, à tuer un cochon, à faire des opérations de réparation du reliquaire, à nettoyer les abords et à faire dons et sacrifices réguliers pour maintenir une bonne relation avec ce mort. Les intermédiaires sont des experts en rituels, des hommes qu'on appelle littéralement des hommes interdits parce qu'ils ont en eux donc un peu de ce mana qui fait que s'ils vous crachent dessus, vous pouvez mourir. Si vous les enjambez en tant que femme, vous pouvez également vous exposer à des sanctions graves. Et donc ce sont des gens qui sont dans une relation avec un ancêtre puissant qui, par le biais du rêve, peuvent visiter le monde des morts, hein, qui est composé d'îles invisibles autour des îles peuplées par les vivants, où, m'a-t-on dit, tout se passe comme chez les vivants. Il y a donc des adultes, des enfants, des pirogues, des jardins. Tous ont les yeux révulsés et c'est ce qui les différencie du monde des vivants. Et c'est aussi le monde des morts, un lieu où les choses sont inversées, c'est-à-dire qu'il fait nuit lorsqu'il fait jour chez nous et inversement.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Salomon, l'archipel des morts présents, à l'occasion d'une exposition qui ouvre aujourd'hui même au musée du Quai Branly, l'éclat des ombres, l'art en noir et blanc des îles Salomon. Nous entendions le témoignage de Sandra Révelon, ethnologue, qui a été sur le terrain aux îles Salomon. Et nous sommes ici en studio en compagnie de Magali Mélandry, qui est co-commissaire. Alors, on a bien compris cette présence des morts. Faut peut-être pas quand même qu'on insiste trop là-dessus, au sens où ce sont des sociétés bien vivantes, très actives, qui font que Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tout ce qui est dans cette formidable expo, mais il y a quelque chose dont j'aimerais que vous nous parliez, Magali Mélandry, ce sont ces monnaies. Parce qu'on a déjà vu ça dans des expositions à propos de l'Océanie, des monnaies de coquillages et des monnaies de plumes, des espèces de grands rouleaux sur lesquels sont fixées des plumes. Et apparemment, c'est une énorme importance, mais ça n'a pas le même usage qu'une monnaie chez nous.
Non, effectivement, on trouve au Salomon en fait trois grands types de monnaies. Au Salomon occidental, des anneaux en fait de bénitiers, de coquillages, de tridacnes, plus de manière générale. Au centre des Salomons et vers le sud, on trouve, vous les voyez dans l'exposition, ces très longues brasses en fait de fils de très fines perles, oui. De coquillages.
Ça fait penser aux gorilles africaines d'ailleurs un petit peu aussi.
Oui, là on est encore même dans un travail de transformation du matériau d'origine absolument remarquable, avec des longues brasses qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de long. Et puis aux îles Santa Cruz, tout au sud de l'archipel, ces monnaies qui se trouvent totalement uniques, qui sont effectivement ces rouleaux de monnaies de plumes. L'exposition vous présente une vidéo vous expliquant la fabrication, puisque toutes ces étapes de fabrication, que ce soit dans les différentes typologies de monnaies, vont conférer leur valeur en fait à l'objet, le poli, l'éclat, la sélection même des coquillages, le lieu d'où ils sont prélevés, la mise en œuvre de ces milliers de plumes collées soigneusement par des spécialistes. Toutes ces étapes de sa fabrication sont menées vraiment par des experts.
Mais ce n'est pas des monnaies à usage uniquement marchand.
Non, on les classe dans les monnaies parce qu'elles ont quand même des formes de valeur parfois assez fixes en termes de, selon la longueur, la qualité. Tous ces critères vont quand même conférer une sorte de valeur, effectivement.
On obtient des biens en échange ?
Oui, on va pouvoir notamment acquérir une femme, en l'occurrence, puisque dans les sociétés du Pacifique, les femmes, dans le cadre des unions, sont aussi des biens d'échange. Et lors des mariages, on va nécessairement, et encore aujourd'hui de manière très très importante, accumuler, que ce soit essentiel pour beaucoup, ces très longues monnaies de coquillages ou ces anneaux de tridacte, les monnaies de plumes étant quasiment plus en usage, les anciennes sont conservées, mais la valeur de ces monnaies de plumes réside dans l'éclat du rouge des plumes. Donc les anciennes monnaies sont beaucoup moins valorisées.
Et elles sont d'ailleurs très cotées chez les antiquaires.
Tout à fait, effectivement. Elles sont aussi
si
un bien valeur.
Parce qu'on voit rue des Beaux-Arts ou ailleurs.
Ces monnaies de plumes ont effectivement eu un gros succès dans l'œil occidental et on en trouve beaucoup, certaines sur le marché.
Thank you. Aux îles Salomon, on trouve quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les mondes autochtones. C'est une sorte de cohabitation entre les croyances traditionnelles et les pratiques chrétiennes qui sont en l'occurrence anglicanes. À ce propos, nous retrouvons l'ethnologue Sandra Révolon qui a longuement séjourné dans une petite île des Salomon.
On est là dans le cadre de sociétés extrêmement plastiques, extrêmement dynamiques et qui se sont construites et qui ont perduré bien avant l'arrivée des Blancs grâce à des systèmes d'appropriation d'éléments de la modernité, qu'elles soient d'aujourd'hui ou d'hier, d'éléments extérieurs qui sont filtrés. Toutes ne rentrent pas dans les communautés et qui ensuite font l'objet d'une forme de bricolage, de distorsion afin de les faire entrer dans les cadres en place. Et c'est tout à fait ce que j'ai eu l'occasion d'observer dans cette petite société de l'Est des Salomon, à tous les niveaux, que ce soit politique, religieux. L'exemple là, le plus frappant ici, c'est la conversion au christianisme qui date des années 50. Il y a aujourd'hui 3 églises pour 800 habitants. Et ce dogme chrétien qui a été accueilli par les gens n'a pas du tout écrasé ou remplacé les représentations pré-conversion, mais s'y sont simplement ajoutées. Et donc vous pouvez très bien avoir des femmes qui vont aller à l'église le dimanche pendant que leurs hommes iront procéder au nettoyage d'un sanctuaire, d'un reliquaire dédié à un mort puissant. Donc il n'y a pas de rapport exclusif. Au contraire, je crois que ce sont des gens qui sont assez finalement opportunistes et qui se sont dit qu'il y avait moyen sans doute d'associer les choses de façon à mettre le plus de chances de leur côté dans un environnement pas nécessairement facile à vivre. On parle d'une toute petite île qui est régulièrement traversée par des cyclones, des problèmes de nourriture souvent qui peut venir à manquer. Donc il n'y a pas eu de rapport d'exclusivité. Alors il faut savoir que la conversion a été faite par des l'église anglicane qui est assez tolérante par rapport aux dogmes, je dirais aux représentations et aux pratiques religieuses locales.
Il y a quand même eu éradication, j'imagine, de certaines pratiques cruelles ou de vengeance, ou etc. Parce que les pasteurs, en général, veulent bien combiner, mais jusqu'à un certain point quand même.
Alors il est vrai que cette petite île d'Aorigi où je travaille était fameuse pour ses tueurs à gages qui étaient donc régulièrement payé pour assassiner des gens dans le voisinage. Alors, ce qui a mis un terme à cette pratique, je ne crois pas que ce soit les missionnaires, c'est plutôt la colonisation par les Anglais qui a pacifié les relations entre les îles, que ce soit des pratiques de meurtre commandité ou de guerre plus généralement. Donc là, c'est plus l'approche, je dirais, politique des Britanniques qui a mis un terme à cela que les missionnaires eux-mêmes. Un autre exemple d'appropriation d'un élément extérieur et d'un bricolage local, c'est les chefs. Donc les chefs économiques sur cette partie du monde sont des big man, des gens qui organisent des grandes cérémonies qui donnent lieu à des échanges compétitifs. Et aujourd'hui, quand vous regardez la quinzaine de chefs qui dirigent l'île, ils ont d'abord été des big man, donc des chefs reconnus localement, avant d'être élus à l'anglaise, puisque donc, nous étions dans une colonie britannique jusqu'à en 78. Donc les gens qui sont élus aujourd'hui pour devenir des chefs élus sont avant tout des big man qui ont organisé des échanges pour occuper un poste politique.
Et il n'y a pas de big woman ?
Et non. Alors il n'y a pas de big woman, le statut n'existe pas. Mais en revanche, on est dans une société matrilinéaire où les frères agissent au nom de leurs sœurs. Donc les femmes sont quand même importantes, mais les statuts politiques ne leur reconnaissent pas d'existence, je dirais, sur la scène officielle.
Voilà, c'était l'ethnologue Sandra Révolon. Donc à voir jusqu'au 1er février au musée du Quai Branly, Salomon, l'archipel des morts présents. Magali Mélandry, vous étiez avec nous et je vous en remercie. À signaler une belle projection vendredi.
Oui, vendredi 21 novembre, la projection d'un film de Jari Kupiainen sur les cultures polynésiennes et les identités culturelles polynésiennes de Renel et Bellona dans le cadre du dernier festival des arts du Pacifique.
Awa namave tade awa namave tade awa namave.
Voilà, d'autres peuples autochtones viennent à nous à Paris pour la quinzaine amazonienne qui a commencé hier. Vous aurez toutes les informations sur la page Tout un monde du site franceculture.com avec vraiment des possibilités passionnantes de rencontres et des témoignages et surtout une prise à partie de l'opinion française car beaucoup de ces peuples sont chassés de chez eux parce qu'on convoite leur territoire et leur forêt. Voilà, c'est sur ce chant Chipibo que se termine Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son d'Ofar Guérid, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freisset sur France Culture.